RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Edouard Braun, qui est chargé d'investissement chez Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Edouard.
Bonjour à tous.
Et Ludovic Beribos, qui est associé du groupe EPSA. Bonjour Ludovic.
Bonjour Alain.
Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Joël Glusman, qui est le vice-président de Dimotrans Group. Bonjour Joël.
Bonjour
Alors racontez-nous, vous êtes né en 1957 à Paris et vous avez commencé votre carrière comme manutentionnaire à Orly et puis après commis en douane.
Ouais. En fait, j'ai démarré sur l'aéroport d'Orly, là où exerçait mon père, puisqu'il travaillait déjà dans l'aviation.
Ouais.
Et j'ai décidé de quitter mes études brutalement, parce que j'ai eu la chance de rencontrer une jeune femme qui est depuis devenue mon épouse.
Toujours maintenant ?
Qui est toujours, oui.
C'est un exploit, ça fait combien de temps que vous êtes mariés ?
46 ans, là je suis un dinosaure.
Et vous l'aimez toujours ?
Toujours.
Ah, c'est génial.
De plus en plus.
Ah, et alors donc, c'est pour elle que vous avez quitté tout ?
Absolument. J'ai voulu assurer mon autonomie alimentaire et mon père m'a aidé à trouver ce premier job. Et j'ai eu la chance de rentrer au départ. Donc, ma formation, c'est bac moins 2, hein, puisque vous ne m'avez pas posé la question.
Non.
C'est bac moins 2. Et en fait, je suis arrivé fin des années 70 et il y a eu une grosse révolution dans le monde du transport. C'est que la douane s'est informatisée. Et donc, à un moment donné, tout ce qu'on appelait les déclarants en douane, il y a eu une courte période où plus personne ne savait déclarer en douane. Et moi, j'ai eu le culot un jour d'aller frapper la porte à un opérateur douanier en lui disant « je suis déclarant en douane ». Voilà.
Vous avez également vécu à New York ?
Oui, j'ai eu la chance. C'est cette même entreprise qui m'a embauché comme déclarant en douane et 10 ans plus tard m'a envoyé pour prendre la responsabilité du développement de leur filiale basée à New York.
C'était une belle aventure, New York ? C'est
magnifique. Il y a eu un avant et un après pour moi, pour ma carrière, pour ma famille, pour mes enfants qui parlent l'anglais beaucoup mieux que moi.
Alors, aujourd'hui, donc, vous êtes le patron d'un groupe, hein, 2000 collaborateurs pour 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il y a eu une fusion entre deux ETI, c'est ça ?
Alors, je ne suis pas tout à fait le patron. En fait, j'ai
Vous êtes le vice-président.
Le vice-président. J'ai cédé au groupe Dimotrans.
Oui.
La majorité de l'entreprise que j'avais créée, une entreprise qui existait d'un peu plus de 30 ans, qui était le groupe Cristal, qui était spécialisé dans différents métiers qui touchaient le transport, la logistique, la douane.
Et pourquoi vous l'avez cédé d'ailleurs ?
Alors, j'en ai pas l'air comme ça, mais j'ai 65 ans.
Ne le faites pas.
Vous êtes gentil.
Comme quoi, 46 ans de mariage, ça conserve.
Ça conserve. Non, en fait, pourquoi j'ai cédé, c'est le fruit d'une longue réflexion, indépendamment de mon âge canonique. C'est que avant même le Covid, on commençait à se poser des questions sur... on n'était pas à l'abri d'un tweet rageur de Donald Trump qui pouvait bouleverser les échanges internationaux. Toute la prise de conscience environnementale, on commençait à se poser des questions sur ce qui se passait en Chine. Et puis, d'un seul coup, il y a le Covid qui nous tombe sur la tête. Premier trimestre 2020, le monde s'arrête. Et en particulier, le monde des transports internationaux. On n'importe plus, on exporte.
Vous avez vendu pendant la période Covid ?
Absolument. En 2021, ça fait un an. Donc, ce n'était pas la meilleure période. Mais par contre, je considère que toute responsabilité d'un chef d'entreprise, je considère que j'ai plus d'obligations et de devoirs que de droits en tant que chef d'entreprise. Mm-hmm. C'est d'assurer la pérennité de son groupe, des collaborateurs qui la composent, qui lui ont fait confiance, quoi qu'il arrive, quoi qu'il lui arrive. Donc, on était déjà... Donc, moi, je suis dans un monde où mes compétiteurs sont des multinationales.
Oui, des géants.
Ce sont des géants. Mais j'essaie d'expliquer un petit peu aux gens qui ne connaissent pas mon métier, ils disent, vous connaissez tous DHL, c'est les plus gros, c'est le numéro un mondial. Et je dis que, finalement, ce n'est pas la taille qui compte, c'est l'agilité. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on était déjà arrivé sur le métier du transport, de la commission du transport aérien. On jouait déjà dans la première ligue. Et difficile de faire mieux. Les marges supplémentaires étaient beaucoup trop hautes. On pouvait faire mieux sur le transport maritime. On était déjà un des plus gros commissionnaires en douane. Et en fait, tous ces bouleversements dans les échanges internationaux, où on commence à parler de relocalisation, ont fait que finalement, on va peut-être produire en France, idéalement, mais plus probablement à court terme en Europe centrale, en Turquie, au Maghreb. Là, les transports, ils ne se font ni par avion, ni par bateau. Ils se font par la route. Donc là, il y avait une faiblesse dans mon offre de service. Et puis, le Covid arrivant, explosion absolue du e-commerce. Là, le e-commerce, c'est de la préparation de commandes, c'est des entrepôts, c'est du dernier kilomètre. Là, je ne sais pas faire.
Oui, c'était chamboulé. Hein.
Complètement.
Et rapidement.
Donc là, par rapport à ma stratégie de sortie de premier actionnaire, il y avait deux choix. Soit on fait rentrer des financiers, il y en a qui sont là pour ça, soit un rapprochement industriel. J'ai jamais été motivé par l'argent, c'était pas ça qui m'intéressait. Et j'ai pensé qu'il était pertinent d'essayer de consolider, d'où le rapprochement avec une société.
Mais dites-moi, Joël, quand on a vendu quand même, on continue à être motivé le matin pour aller au boulot ou pas?
Ah, ça, c'est la question qui tue. Oui. Alors, en fait, on a vendu il y a un an. À peu près, on a vendu en juillet 2021. Pas une seconde, je n'ai regretté depuis ce moment-là d'avoir fait cette opération. J'avais probablement sous-estimé l'impact que ça pouvait avoir à titre personnel. Et effectivement, comment on trouve sa motivation lorsqu'on n'est plus le décideur? Alors, finalement, c'est une situation assez confortable de ne plus avoir à décider. Et puis, on essaye de rester influenceur. Et mon devoir, c'est de continuer à accompagner et d'accompagner le nouvel actionnaire dans un périmètre qui est plus grand. Je découvre des segments de la supply chain.
Mais vous êtes toujours opérationnel ou vous avez...
Non. Ça, j'avais déjà préparé avant même la session. J'avais mis en place une équipe de jeunes qui est aujourd'hui aux commandes de cette partie-là. Et aujourd'hui, le groupe d'Imotrans, avec sa filiale internationale que nous représentons, c'est 750 millions de chiffre d'affaires.
Oui, c'est une très belle boîte. Ludovic ?
Oui, moi j'avais une question. C'est vrai, quand on parle de TI, on parle de croissance. On parle moins justement de ces phases de cession ou transmission. C'est des projets qui se préparent. Je voudrais savoir de quelle façon vous avez préparé cette phase de transmission et notamment par rapport à vos collaborateurs, parce qu'on sait que ce sont des phases qui peuvent être un peu anxiogènes.
Ça a été le plus dur pour moi, ça a été d'embarquer avec moi dans ce projet-là. Alors déjà, c'est une histoire de bonhomme. Hein. Je veux dire, on a eu par le passé, eu cédé le capital de notre entreprise à une petite PME marseillaise dont vous avez entendu parler, qui s'appelle CMA-CGM.
Oui, bien sûr, enfin, salut les familles CAD, oui.
Et on apprend beaucoup de ces erreurs. Ça, c'en était une majeure.
Vous l'aviez vendu la boîte ?
On avait vendu la boîte.
Vous l'avez rachetée après ?
On l'a rachetée après, voilà.
Vous avez raison, quand on fait une erreur, il faut racheter.
Non, on a fait une erreur. Et l'erreur, elle était sur quoi ? Un choc de valeur et un gap culturel qu'on n'a pas pu combler. Donc, on apprend de ces erreurs, on évite de les répéter. Et la chance qu'on a eue, c'est que l'actionnaire du groupe d'Imotrans est quelqu'un avec qui je me suis tout de suite super bien entendu. Ouais, donc, ça a d'abord été une affaire de bonhomme. Ensuite, pour répondre à votre question, c'est comment on embarque ces équipes sur un projet comme celui-là. Ils savaient que j'étais en bout de course, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Il y avait la tentation, justement, de faire entrer un fonds pour qu'on continue tout seul.
Oui.
Et finalement, on a décidé, j'ai réussi à les embarquer avec moi sur un projet qui est magnifique aujourd'hui. Aujourd'hui, on est devenu une ETI complètement incontournable sur tous les segments de la supply chain. C'est une société qui est capable d'apporter une compétition crédible par rapport à ces géants avec lesquels nous faisons face tous les jours.
Ludovic ?
Alors, on parlait de RSE, hein, question qui fâche. On sait que le secteur du transport est fortement contributif, notamment aux émissions de CO2. Je voulais savoir comment vous positionnez par rapport à ces enjeux.
Alors, on a été parmi les commissionnaires en transport. Donc, un commissionnaire, à l'époque, j'ai pas de bateau, pas d'avion, pas de camion. Hein, je suis simplement...
Un intermédiaire.
Un intermédiaire. Et en fait, on traite avec des entreprises qui, elles, ont des moyens de transport. Donc, on a été avec une entreprise qui s'appelle Tecablu, qui a été pionnière dans le sujet de mesurer l'empreinte carbone que l'on avait. Donc, on a été pionnier dans nos métiers pour commencer à mesurer. Hein, ce qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être amélioré. Donc, on a commencé à mettre en place rapidement des mesures de CO2, des opérateurs transports que nous utilisons. Et c'est aussi aujourd'hui une contrainte à laquelle l'ensemble de nos clients chargeurs nous demandent. Je veux dire, on ne répond pas à un appel d'offres si on n'est pas capable de dire quelle est votre démarche pour réduire l'empreinte carbone. Voilà. Donc, on mesure.
On sait qu'effectivement, dans votre secteur d'activité, l'énergie est un poste relativement conséquent. Je veux savoir de quelle façon vous appréhendez la volatilité des prix ou la maîtrise justement de ce poste d'énergie.
Alors, il y a différents métiers. Lorsqu'on est sur le transport aérien ou le transport maritime, il y a eu une augmentation absolument phénoménale des coûts qui n'étaient pas forcément liés au prix du carburant. aujourd'hui sur tous les transports routiers, oui, effectivement, il y a un impact qui est très important, qu'à chaque fois, l'ensemble de nos professionnels essayent de répercuter.
Vous êtes président de la fédération, hein ?
Absolument.
Oui. Oui. De quelle fédération, d'ailleurs ?
Union TLF, qui regroupe l'ensemble des opérateurs de transport et de logistique. Alors, en fait, il y a l'Union TLF et il y a TLF Overseas, qui est la partie internationale. Je suis président de TLF Overseas.
Édouard.
Bonjour.
Et bonjour.
Je voudrais revenir juste sur l'intégration du groupe. On parle peu, finalement, de la culture d'entreprise, de la raison d'être, etc. Comment ça s'est passé auprès de vos équipes, le fait d'être intégré dans un groupe beaucoup plus grand ?
Alors, notre groupe, c'était à peu près 400 collaborateurs. Le groupe qu'on a rejoint était beaucoup plus gros que nous. Un an après l'opération, l'intégration n'est pas terminée. C'est un chemin qui se fait tous les jours, mais qui aujourd'hui se passe bien. Parmi tous les avantages du rapprochement avec le groupe d'Imotrans, il n'y avait quasiment aucun doublon. Donc ils étaient présents sur d'autres segments de la supply chain, donc on était complémentaires, il y avait pas de doublons. Maintenant, je vous ai dit également que ce rapprochement, ce rachat a été initié parce qu'il y a deux bonhommes qui se sont bien entendus.
Bien sûr.
Ils se sont d'abord bien entendus en tant que personne.
Oui, après il y avait 500 personnes à convaincre.
Oui,
des deux côtés,
je pense que les équipes ressemblent.
Oui, aux dirigeants.
Aux tauliers. Ouais, hein, je pense qu'elles ressemblent. Donc, il n'y a pas eu...
Ça s'est plutôt bien passé que l'intégration.
C'est en cours. Ouais. Alors, au niveau humain, ça s'est plutôt bien passé. Après, il y a des changements très importants. On s'aperçoit que les systèmes d'information ne sont pas les mêmes. Ouais. On a décidé de choisir les systèmes de Dimotrans plutôt que ceux que...
Les rémunérations étaient équivalentes, enfin, les mêmes systèmes, ou il fallait aussi adapter l'humain?
Non, il y avait des différences qu'on est en train de régler. Il y avait des RTT dans un des groupes, il n'y en avait pas dans l'autre. Il y avait un 13e mois chez nous, il n'y en avait pas ailleurs.
Il y avait 53 heures par semaine dans l'un. 35 faut, dans l'autre.
Voilà, donc il faut harmoniser ça, il faut passer par les représentations du personnel, ça prend un petit peu de temps, mais globalement ça se passe très bien. Enfin, je veux dire, je touche du bois, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de...
Pas du tout. Édouard ?
Et en termes de synergie, après un an ?
Fabuleux. Alors, on ne les a pas toutes explorées. Et alors, autre avantage d'un rapprochement avec un groupe qui était complémentaire au nôtre, c'est qu'on n'avait quasiment pas les mêmes clients. Donc, je veux dire, les clients qui aujourd'hui faisaient confiance à Qualitair, ENSI, sur la partie aérienne et maritime, ont aussi des besoins routes, ont aussi des besoins logistiques. Et bien, on va aller les chercher chez Dimotrans, et réciproquement, les clients de Dimotrans qui ont des besoins en aérien ou en maritime, allez les chercher.
Joël, le profil du patron de la supply chain dans 10 ans, ça sera qui ? Ça sera quoi ? Ça sera une personne qui est orientée business, qui sera quoi ? Un technicien ? Quelqu'un qui est... Il sera comment ?
Alors, d'abord, la supply chain, c'est quelque chose, aujourd'hui, chez nos clients chargeurs, on avait affaire, lorsque j'ai démarré dans ma carrière il y a quelques années, on avait affaire avec un responsable transport. Ensuite, ce responsable transport est devenu un responsable logistique. Et aujourd'hui, le patron de la supply chain, il est dans le COMEX de tous nos clients.
Absolument.
Ouais. Et aujourd'hui, la maîtrise des approvisionnements en liaison avec le marketing, la vente, etc., fait que c'est un poste qui est éminemment stratégique. Ce qui veut dire qu'en face de nous, je pense que des profils comme le mien vont devenir de plus en plus rares. Celui qui a pris les commandes de mon équipe, qui s'appelle Eric.
Que l'on salue.
On le salue. Et en fait, moi, j'ai fait la sortie des écoles. J'ai été intervenant dans son école de logistique il y a une trentaine d'années.
Vous l'avez embauché parce qu'il avait un potentiel.
Bah oui.
Génial. Alors, pour terminer, il paraît que votre meilleur souvenir de cuisine est et restera le couscous de votre maman.
C'est sympa de rappeler ça. Oui, absolument. Voilà. Donc, le couscous de ma maman, c'est absolument le meilleur souvenir. Et ça reste mon plat préféré.
Donc, votre épouse n'a pas réussi à le détrôner, quoi.
Non.
Merci beaucoup, Joël. Merci également vous, Édouard et Ludovic. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.